Bonjour à tous, on va commencer. Donc bienvenue à la Foire du Livre de Brive, bienvenue à la rencontre donc, professionnelle que l'agence ALCA Nouvelle-Aquitaine, donc l'agence pour le livre et le cinéma, organise en partenariat avec la Foire du Livre. Donc ce matin, nous allons aborder le métier d'agent littéraire, donc un métier en plein essor dans l'écosystème du livre. L'idée, c'est de découvrir à la fois le métier d'agent, toutes ses facettes. Donc on va pouvoir entendre sur la première table ronde deux agents littéraires et ensuite la parole des auteurs, c'est-à-dire quel est le processus d'accompagnement, pourquoi ont-ils fait appel à des agents, et voilà. Donc ALCA remercie la Foire du Livre pour son accueil, et puis je vous souhaite donc une bonne matinée.
Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent. Je m'excuse François David, commissaire général de la Foire du Livre, qui ne pouvait pas être présent ce matin. Il est dans le train du livre de Paris à Brive qui accompagne les auteurs. Voilà, il pense à nous et c'est ici notamment que se lance la 39e Foire du Livre puisque c'est l'un des premiers rendez-vous de cette 39e édition qui se déroule donc à Brassens pour la littérature générale et Espace des Trois Provinces pour la bande dessinée et la jeunesse. Je vous le dis parce que peut-être aurez-vous l'occasion, souhaitez-vous découvrir plus en amont durant ces trois jours la foire. Donc il y a vraiment ces deux lieux à découvrir cette année. Voilà, je vous souhaite une bonne foire à tous et à très bientôt. Et s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible dans la salle de garder pendant la rencontre le masque ? Oui, à l'intérieur. Merci beaucoup à tous.
Bien, bonjour à toutes et tous, bonjour à mes deux invités. Cette première table ronde s'intéresse à la question des différences entre les agents d'auteur et les agents d'éditeur. Quelles sont les différences de métier entre ces deux activités ? Pour répondre à cette question, je remercie Magali Delobel pour sa présence, agente littéraire chez Sofar So Good Agency, et Annelé Legras, agente littéraire chez Annelé and Associates. Bonjour à toutes les deux. Moi je suis Chloé Marot, je vais donc animer cette rencontre et je vais commencer juste par une petite présentation de chacune d'entre vous avant de vous laisser la parole évidemment en tant que professionnelle. Magali, vous êtes donc la fondatrice de So Far So Good Agency que vous avez créée en 2014. Votre agence propose deux types d'accompagnement. Principalement. D'un côté, l'accompagnement en tant qu'agent d'auteur et de l'autre côté, un accompagnement en tant qu'agent d'éditeur. Vous êtes également en mesure de représenter donc, le catalogue de différents éditeurs, ce qui vous permet de répondre à la question de ce matin en fait, avec deux casquettes. Annelé, vous avez fondé Annelé and Associates en 2012, mais vous êtes agente indépendante depuis 2000. Vous êtes au départ intéressée au catalogue d'éditeurs jeunesse, ce qui est toujours à l'heure actuelle assez développé en France chez les agents, d'après ce que j'ai pu lire. Dans votre catalogue, on trouve des maisons avec des fortes lignes éditoriales assez marquées, notamment au niveau visuel, Courtes et Longues, Les Fourmis Rouges, Marcel et Joachim, Mémo, Rue du Monde, pour en citer quelques-unes. Et vous accompagnez également des catalogues, des livres, documentaires, des beaux livres, des pop-up, etc. Donc on voit que l'image joue un rôle prépondérant dans votre catalogue. Voilà, donc, première question pour toutes les deux. Pourquoi et comment, dans votre parcours professionnel, en êtes-vous arrivé à créer votre entreprise d'agente littéraire ?
Allez, je me lance. Donc moi, c'était d'abord une activité indépendante que j'ai créée. C'était pas une agence dans le sens où j'étais toute seule et je démarrais. Et surtout, j'avais pas d'associé à l'époque, j'étais vraiment toute seule. Mais je faisais exactement le même métier que je fais aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière chez Gallimard Jeunesse où j'étais aux droits étrangers. Donc je fais des droits étrangers depuis plus de 25 ans en fait. C'est vraiment mon métier de base. Et j'ai quitté Gallimard Jeunesse au bout de 4 ans parce que je voulais découvrir autre chose. Et je suis allée travailler à Londres pendant 2 ans. Je suis partie de la France parce qu'en fait, Gallimard Jeunesse, à l'époque, c'était vraiment la grande époque du documentaire jeunesse. On était un service de droits étrangers où on n'était que 2 personnes. On croulait sous le travail. La gestion des coéditions, on en parlera peut-être plus tard parce que c'est une activité importante. importante pour nous. Et je voyais pas ce que je pouvais faire de mieux en France, dans un service de droits étrangers jeunesse. Donc je suis partie à Londres, où j'ai bossé pour une joint venture entre De Agostini et Rand McNally. Je travaillais sur des atlas mondiaux, mais toujours en droits étrangers. Et puis, pour des raisons personnelles, familiales, on est revenu en France. Et là, la question s'est posée, est-ce que je retournais comme salarié en entreprise ou pas ? Et on a évalué, pour des raisons familiales, j'avais pas envie de retourner en entreprise tout de suite. J'ai réfléchi à faire de la traduction. J'ai fait une formation en traduction. Et là, je me suis dit, mais la traduction, ça va être trop solitaire comme travail toute seule, des jours entiers sur mes textes. Voilà, je trouvais ça trop solitaire. Et là, je me suis dit, mais autant faire ce que je sais faire, hein, c'est-à-dire des droits étrangers. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et j'ai commencé avec les éditions Thierry Magnier. Thierry Magnier venait de monter sa maison d'édition indépendante. On s'était rencontrés chez Gallimard. C'était une toute petite équipe chez Thierry Magnier, donc il n'avait pas cette expertise en interne. À l'époque, il n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour s'occuper uniquement des droits étrangers. Et c'est comme ça que je lui ai proposé de le faire en extérieur, en tant qu'indépendante. Et assez vite, j'ai rassemblé d'autres catalogues. Donc il y a eu les éditions Être, il y a eu Sarbacane pendant longtemps. Voilà, ça a commencé comme ça.
Et vous, Magali ?
Et ben, c'est un peu parallèle, finalement. Moi aussi, j'ai travaillé dans les droits étrangers. J'ai commencé ma carrière au Québec, à Montréal, où j'étais dans une petite maison où on fait un peu tout. Et très vite, je me suis occupée des droits étrangers. J'ai trouvé ça assez fascinant. Alors, j'avais la relation avec les auteurs en tant qu'assistante d'édition, et je travaillais les droits étrangers. Ensuite, moi, je me suis installée aussi pour des raisons personnelles en Norvège, où j'ai continué à faire les droits étrangers. Et quand cette aventure-là s'est arrêtée, j'ai été très vite sollicitée, en fait, par les auteurs, par les éditeurs, justement les éditeurs qui sont des éditeurs indépendants, qui, comme disait Anne-Hélène, n'ont pas forcément dans l'équipe quelqu'un qui s'occupe des droits étrangers, qui m'ont sollicitée à cause de mon réseau, à cause de ce que j'avais fait dans la maison dans laquelle je travaillais avant. Et donc ça s'est un peu fait tout seul, jusqu'à aussi que moi j'ai un peu le même sentiment que toi. Est-ce que... je veux maintenant être salariée dans une maison d'édition pour faire des droits étrangers, où finalement on fait que des droits étrangers, et qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se sent peut-être un petit peu étouffé, alors que là, j'avais l'opportunité de lancer à ma façon de faire et pouvoir devenir un peu couteau suisse et faire choisir les auteurs et les catalogues sur lesquels on travaille et faire ce qu'on sait faire, voilà, notre expertise du quotidien et l'adapter à notre vie, à notre mode de vie. Et c'est comme ça que ça s'est fait aussi de mon côté.
Alors, couteau suisse, ça, c'est vraiment le mot qui m'est venu en tête tout de suite quand on a préparé la rencontre et qu'on a discuté toutes les deux. Et c'est là que vous avez une différence assez importante. Donc, vous, Magali, vous êtes plutôt dans la polyvalence. Vous, Anne-Hélène, vous êtes vraiment dans une niche, en fait, où vous vous occupez uniquement de la jeunesse. Alors, je me dis qu'à l'heure actuelle, ça doit être une force parce que, il y a peu d'agents, j'ai pu voir, qui sont spécialisés en jeunesse. Est-ce que ça peut être une faiblesse ? Est-ce que, du coup, vous envisagez d'ouvrir votre catalogue à autre chose que de la jeunesse ? Est-ce qu'on ne se perd pas quand on suit 10 000 projets ? C'est peut-être pas encore le cas, parce que pour l'instant, vous êtes encore seul, mais ça ne va pas durer. Voilà. Quelles sont les différences à ce niveau-là ? Pourquoi faire ce choix d'un côté quelque chose d'une activité très spécifique et de l'autre une activité très polyvalente ?
En fait, moi je dirais que ça s'est fait un peu au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a un auteur, moi, qui va m'arriver avec un projet, je ne fais pas de jeunesse, mais j'ai des auteurs qui vont me porter un projet jeunesse qui va me parler et je vais aussi me servir de mon réseau pour l'apporter aux éditeurs jeunesse, donc c'est vraiment... plutôt comme ça que ça s'est fait. Puis après, on parlera de l'évolution du métier d'agent. Moi, quand j'ai démarré, je ne faisais pas du tout de droit audiovisuel. Et c'est venu, c'est l'évolution de l'agence, l'évolution de la façon dont les droits, où sont les enjeux actuels, qui font que je deviens couteau suisse. Et puis c'est aussi un peu par goût d'aventure. Hein. C'est que j'aime ça. J'aime découvrir des nouveaux marchés, se confronter à des nouvelles personnes, parce que l'édition, ça reste quand même un petit milieu, et moi, je trouve ça très rafraîchissant, voilà, de rencontrer les producteurs de cinéma, les scénaristes, C'est super et ça se multiplie, alors c'est beaucoup de boulot, oui. Et ça, c'est sûr qu'il y a un moment où moi, de mon côté, c'est plutôt étoffer l'équipe maintenant qui va me permettre de faire plus. Mais c'est vraiment, je pense que c'est par goût aussi, hein, moi, que j'ai envie de faire un petit peu tout et pour ne pas m'enfermer dans quelque chose en particulier.
Alors, moi, ça a été, c'est aussi rationaliser son travail. C'est-à-dire qu'on est des entreprises indépendantes. Il faut qu'on vive de notre métier. Et il y a un moment, il faut rationaliser. C'est-à-dire on ne peut pas s'éparpiller dans tous les sens. Il faut savoir là où on va pouvoir faire rentrer l'argent pour nous-mêmes et pour nos éditeurs ou nos auteurs. Voilà. Et en jeunesse, les enjeux ne sont quand même pas les mêmes qu'en littérature adulte. C'est-à-dire qu'un titre ne rapporte pas énormément, lui, tout seul. C'est très rare d'avoir des best-sellers en jeunesse. Alors, j'espère toujours en avoir un. Hein. Tous les ans, je me dis peut-être cette année, on va avoir un titre qui va cartonner absolument partout. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Donc, on est obligé de rassembler des propositions, en fait, pour faire force de proposition auprès des éditeurs étrangers. Voilà, je ne peux pas avoir 10 titres à présenter sur une foire du livre. Il faut vraiment que j'ai un catalogue complet. Et chacun de mes éditeurs indépendamment n'est pas tout à fait c'est pas tout à fait suffisant pour le représenter à l'international. Donc c'est comme ça que s'est créée l'agence, c'est enrichi l'agence, hein. Ces catalogues mis bout à bout sont force de proposition ensemble, quoi. Voilà. Et se complètent, ne sont pas vraiment en compétition les uns avec les autres, mais ils se complètent, hein. Voilà, c'est comme ça que... Après, moi, j'ai fait un peu d'audiovisuel, des rencontres, je trouve ça hyper intéressant aussi, mais derrière, à la fin de la journée, j'ai pas le temps de tout faire, en fait. Il faut que j'ai fait des choix, quoi. Voilà. Et moi, j'aime particulièrement présenter les livres aux éditeurs internationaux. Voilà, je prends vraiment plaisir à ça. Donc, il y a un moment donné, je me concentre sur ce que j'aime faire et ce qui aussi rapporte de l'argent, quoi.
Mais c'est vrai que c'est deux mondes très différents aussi, hein. La jeunesse et le livre adulte. C'est pas les mêmes, on ne fait pas les mêmes rendez-vous, on ne présente pas les choses de la même façon. Moi, par exemple, avoir 10 titres à une foire, c'est super. Et je comprends, hein, que ce n'est pas la même chose que de présenter un catalogue jeunesse. Et même dans les rendez-vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de montrer les livres, là où moi, ça se passe vraiment différemment. Si je n'ai pas le livre sur moi, ce n'est pas un problème, j'envoie le PDF juste après. C'est vraiment une façon différente. Et puis, c'est vraiment deux mondes parallèles, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes éditeurs, ce n'est pas les mêmes relations, ce n'est pas la même temporalité non plus. Ce n'est même pas les mêmes foires, on en parlera un peu plus tard. On a des foires communes, mais vous avez vraiment Bologne qui est votre foire. Enfin, c'est vraiment deux mondes parallèles.
Pourtant, vous avez dit juste avant qu'un même auteur pouvait écrire en littérature générale et en littérature jeunesse.
C'est eux, les transfuges. Oui, mais c'est pour ça que moi, ce n'est pas, voilà, c'est pas ma cible, ce n'est pas les éditeurs jeunesse, que je les connais beaucoup moins. Et là, c'est vraiment plutôt pour continuer le parcours avec mon auteur. Et là, je n'hésite pas justement à solliciter mes confrères pour avoir des idées, pour développer le réseau. Mais pareil, ce ne sera pas là où je sortirai de la rémunération suffisante, c'est certain. En jeunesse, c'est difficile, hein, pour les auteurs, pour les illustrateurs et les auteurs, donc d'autant pour les agents.
D'accord. Oui, on reviendra après sur la rémunération des agents, comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'on peut entrer dans vraiment le cœur de votre métier? Est-ce que vous voudriez bien chacune m'expliquer un petit peu comment ça se passe? Vous, comment vous y prenez pour faire entrer un nouvel éditeur au catalogue? Comment vous accompagnez concrètement au quotidien? Bien sûr, pas chaque éditeur quotidiennement, mais comment vous les accompagnez dans leur travail? Quel est votre rôle? Où est-ce qu'ils commencent? Où est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce que c'est des choses qui se négocient en fonction des éditeurs? Voilà, et puis même question pour vous, mais peut-être plutôt sur le côté accompagnement d'auteur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se fait à la carte en fonction des besoins et des souhaits de l'auteur, de comment vos personnalités se rencontrent ou un peu moins? Voilà.
Alors, moi, pour mes éditeurs jeunesse, ça a à chaque fois été des rencontres de personnes. Le premier, ça a été Thierry Magnier. Ça s'est arrêté quand il a été racheté par Actes Sud. Mais après, à chaque fois, ça a été des rencontres, hein, des créateurs de ces petites maisons d'édition. Alain Serre pour Rue du Monde, Christine Moreau pour les éditions Mémo, Valérie Cussaguet pour les Fourmis Rouges. Voilà, c'est des gens que je côtoie et que j'apprécie j'apprécie le travail et ça s'est fait à chaque fois. C'est des rencontres assez naturelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une opportunité qui se présente pour eux de développer, d'aller rechercher des contrats à l'étranger et moi, je suis là pour répondre à ce besoin de leur part, quoi. Aujourd'hui, on refuse en fait plein d'éditeurs. On en avait parlé. Les éditeurs se posent la question de leurs droits étrangers très tôt aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai commencé il y a 20 ans en tant qu'indépendante. Donc, on refuse. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas pris de nouvel éditeur parce que je veux me concentrer sur ceux que j'ai déjà. Je ne veux pas m'éparpiller encore une fois dans tous les sens. C'est trouver une économie qui fonctionne avec ces éditeurs-là que j'ai. Je ne veux pas en rajouter plus. Et après, je fais le même travail que le responsable de droits étrangers en interne. En jeunesse, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour nous. C'est-à-dire que nos éditeurs nous présentent les livres, on leur donne éventuellement un avis, mais en général, ils s'en foutent. Ils font les livres pour leur marché français, avec leurs auteurs, vraiment en toute liberté éditoriale. Après, éventuellement, nous, on leur fait quelques remarques en disant qu'on aura peut-être plus de mal à vendre certains titres que d'autres, qu'il y a des spécificités un peu françaises, etc., que ce sera moins international, etc. Mais encore, il y a des fois, on a nous-mêmes des surprises. Et ces titres, on va faire tout pour les présenter aux éditeurs à l'international. On en fait des traductions en anglais, des traductions de travail, mais on traduit tout en anglais, des présentations, on fait même des vidéos de présentation de nos livres, on va sur les foires, on les présente, on négocie donc les contrats ensuite, et on fait le suivi de la vie de ces livres des éditions étrangères. On recueille les relevés de droits annuels, on vérifie où en sont les éditeurs étrangers avec ces éditions. C'est un travail de fourmi parce qu'on a à peu près 850 éditions étrangères qui tournent à l'heure actuelle. Donc c'est un travail de fourmi en fait.
Oui, c'est énorme. Je pensais pas qu'il y avait autant de rachats de droits possibles. 850, c'est autour de combien de titres ?
Autour de peut-être 200 titres, 200 D'accord. titres à peu près, 200, 300 titres peut-être. Ouais. J'ai regardé un peu mes statistiques avant de venir, parce que justement, je me posais la question, ouais, quel était le volume un peu, qu'est-ce que ça pouvait représenter.
Et quand vous dites, quand vous observez un catalogue d'éditeurs et que vous dites, ce titre-là, il va être compliqué à vendre à l'étranger, c'est une phrase générale, parce que je suppose que l'étranger n'est pas un bloc
oui,
uniforme.
Tout à fait.
Et donc, il y a peut-être des pays qui sont plus susceptibles d'acheter tel ou tel type d'ouvrage. Est-ce que vous voyez des blocs comme ça qui se détachent en fonction des cultures, en fonction du lieu géographique?
Alors, il y a des spécificités très culturelles et très marquées. Par exemple, au Mexique, ils adorent les livres sur la mort, même en jeunesse. Donc, bizarrement, on va pouvoir vendre des livres jeunesse sur la mort au Mexique, alors que par ailleurs, ils vont tout de suite nous dire non, c'est pas possible, on parle pas de la mort aux enfants. Ça c'est un exemple typique. Après, d'une manière générale, l'édition jeunesse française est très reconnue à l'international pour la qualité graphique de ses albums et pour la liberté éditoriale que les éditeurs ont dans leur création. Et ça, c'est reconnu d'une manière générale à l'international.
Quels sont les plus gros acheteurs, les pays qui achètent le plus souvent des droits auprès de vous, par exemple ?
C'est la Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine. Je crois que c'est à peu près le cas pour tous les éditeurs jeunesse français. En nombre de titres, c'est les Chinois. Et en chiffre d'affaires, ça sera plutôt les Américains.
D'accord. Et alors pour vous, Magali, l'accompagnement d'auteur, quelle est la démarche ?
Je suis sollicitée la plupart du temps par les auteurs qui vont m'envoyer par email ou par un ami d'ami du voisin de la tante un manuscrit. Moi, j'aime bien que la rencontre, elle se passe par le texte. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je pense que pour parler d'un livre, j'ai besoin de ressentir quelque chose, vraiment que ça me retourne les tripes et que je sente que ça, je pourrais le... Enfin, ça va ressortir quand j'en parlerai aux éditeurs. C'est vraiment un boulot de passion pour moi. Donc, ça part toujours d'un manuscrit que je vais lire, qui va me parler. Et après, vraiment, c'est là où démarre, en tout cas ma façon de voir le métier d'agent, quelque chose de vraiment d'adapter à l'auteur et à son besoin au moment T, qui ne sera pas forcément le même besoin pour un autre roman, un autre moment de sa vie. Voilà, je m'adapte. Il y a des auteurs qui aiment travailler leur texte avec un agent, des auteurs qui me livrent un texte où il n'y a même pas une virgule à changer, ou peut-être juste un titre. Ou... C'est vraiment, ça dépend, des auteurs qui aiment beaucoup être accompagnés. Ce n'est pas forcément toujours un accompagnement sur le texte, ça peut être aussi un accompagnement de développement artistique, quoi. Leur donner des conseils sur leur carrière, sur à quel moment sortir tel livre. Ensuite, une fois qu'on juge ensemble que le livre est prêt, je fais avec... Moi, je prépare une petite stratégie, en général une dizaine de maisons d'édition dans lesquelles je verrai le roman. J'en parle avec l'auteur. Ça m'intéresse. J'ai envie de savoir, en fait, au début, quel est le rêve de l'auteur, parce que je trouve que c'est important de réaliser ses rêves quand on est auteur. Et voilà, si cette maison le fait rêver, on va envoyer à cette maison, même si ça n'a pas de sens. Je trouve ça toujours important, quand même, de suivre ce qu'on a dans les tripes. Et à partir de là, voilà, soit ça mord. Un éditeur va nous faire une proposition, puis après, en tant qu'agent, je vais accompagner le choix de la maison d'édition, sachant que c'est toujours l'auteur qui décide. Pour moi, c'est important que ce soit l'auteur qui... Moi, je suis mandataire. Alors, un agent, c'est un mandataire, c'est-à-dire que je ne signe aucun contrat. Hein. Je fais signer mon auteur et je lui apporte les projets qui, lui... c'est-à-dire que je peux lui apporter un contrat prêt à signer et puis que finalement, il me dise « bah non ». Et c'est OK. C'est totalement OK. Et ça, je trouve ça vraiment important de le souligner. Hein, l'agent...
C'est déjà arrivé.
Non, c'est jamais arrivé, mais ça pourrait, et je trouve ça bien, que l'auteur, ça reste la personne qui a son nom sur la couverture. Moi, je suis juste un maillon, et ça, j'apprécie, et je trouve ça important. Ensuite, en fonction de l'éditeur, pour moi, c'est aussi important de trouver une maison. Là où, c'est ma vision pour mes auteurs en général, c'est sur le long terme, qu'ils se développent, qu'il y a un deuxième, troisième, quatrième livre, un cinquième livre. On en connaît beaucoup des exemples. On peut parler d'Hervé Le Tellier, hein, qui explose au cinquième, sixième livre. Voilà. Ça, je trouve ça intéressant et ça, ça me tient à cœur. Donc, c'est trouver une maison. Ensuite, m'adapter à la relation qui va se créer avec l'éditeur. Je vais accompagner, bien sûr, toujours... tout ce qui est juridique, en fonction du texte et du projet, je garderai ou non les droits étrangers ou non les droits audiovisuels. Et donc à ce moment-là, moi j'adore, je suis un peu comme Annelé, hein, j'adore garder les droits étrangers, aller aux foires, parler des livres aux éditeurs étrangers, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc quand je peux le faire, je le fais. Mais si je sens que ça tient à cœur à l'éditeur aussi, ou qu'ils ont une équipe très forte là-dessus, on en discute. C'est toujours vraiment... la façon que j'ai de travailler. Ensuite, oui, j'accompagne en fonction des besoins. S'il y a besoin d'accompagner derrière, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu quand même auprès de mes auteurs, bah voilà, pour voir quelle foire ils vont aller. À l'étranger, surtout, une fois qu'on a fait les sessions, gérer la presse avec l'éditeur étranger, gérer les invitations éventuelles à l'étranger, ça aussi, je trouve ça très sympa. Gérer quand il y a des prix internationaux aussi, c'est hyper, hyper important. Et après, effectivement, accompagner toute la vie du livre, parce que derrière, il va y avoir le livre hollandais qui va être publié en poche, il va falloir renégocier un peu le contrat, valider les couvertures, toutes ces choses en fait, qui se passent sur le long terme d'un roman, et par exemple, voilà, une adaptation en livre audio aux États-Unis. Enfin, vous voyez, ça peut être 2-3 ans après la sortie, continuer à se passer des choses, et c'est là où l'agent continue à faire le lien et à faire le point avec l'éditeur, avec l'auteur. Voilà.
D'accord. Bah, puisqu'on est entré beaucoup dans les détails là, sur cet échange, peut-être qu'on peut en profiter pour regarder justement un exemple autour de Frères d'âme de David Diop, qui a donc été traduit, je crois, en plus de 30 langues.
Oui, maintenant on est à 30 langues, donc j'avais pris quelques couvertures pour montrer. C'est assez parlant. Donc ça, c'est, je montre à la caméra, c'est l'édition française de poche. Là, c'est un des premiers éditeurs qui a acheté le livre, les droits du livre avant qu'il soit même publié en France, donc avant que ça fonctionne très fort en France. L'éditeur hollandais que j'avais rencontré à la foire de Londres, qui avait acheté les droits, donc une des premières éditions étrangères. Donc pareil, la couverture, là, c'est la traduction vraiment du titre « Frères d'âme ». Ils nous font valider la couverture, ils nous font valider le titre. Pour moi, c'est important que l'auteur s'y reconnaisse toujours un peu. Sachant qu'aussi, il faut faire confiance à l'éditeur. En général, quand on signe un contrat avec un éditeur étranger, c'est qu'on lui fait confiance et qu'on aime sa charte graphique et qu'on lui fait confiance pour connaître le mieux son marché. Mais quand même, j'aime bien pouvoir avoir un petit mot à dire sur les couvertures. Ça, c'est l'édition poche anglaise.
Là, il y a une grosse rupture graphique.
Ouais, c'est une maison d'édition très pop, Pushkin Press. Ils font vraiment des livres qui commercialement marchent très bien. Donc là, on leur a fait aussi confiance. Ils ont aussi commandé une illustration originale à un artiste, donc voilà. Et eux ont changé le titre. Alors les premiers à avoir changé le titre, ce sont les Allemands. Donc là, le titre, c'est « La nuit, tous les sens sont noirs », qui est une des phrases du roman, sur laquelle on avait hésité en France, d'ailleurs, pour le titre. Donc c'est assez amusant quand les Allemands nous ont dit « En fait, frère d'âme, en allemand, ça se prononce pas, c'est très très laid ». On voudrait prendre ce titre, on a dit banco et ça nous a fait sourire parce que c'était le titre qu'on a eu aussi nous en tête et qui a été repris en anglais et qui a été repris dans beaucoup d'éditions étrangères parce que finalement le jeu de mots frère d'âme ça marche pas forcément dans toutes les langues. Ça c'est la couverture grecque que moi j'aime beaucoup. Et là vous voyez aussi on a une différence de papier, on a un joli papier gaufré, on a des rabats, c'est vraiment entre chaque pays. Les Allemands aussi font des très beaux livres cartonnés, ce qu'on ne ferait pas forcément en France. Et ça, c'est une des toutes dernières, je crois que je l'ai reçue la semaine dernière. C'est l'édition portugaise. Voilà, aussi, ils ont travaillé sur un graphisme, ils ont fait une commande à un artiste. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a eu très peu pour ce livre-là de reprises de couverture. Ils ont tous fait une couverture. Les Brésiliens aussi ont pris un jeune artiste pour faire une couverture. Et ça, je trouve ça... Voilà, c'est aussi le signe que le livre leur a parlé, qu'ils ont envie de le partager sous le meilleur jour pour leurs lecteurs. Et je trouve ça vraiment satisfaisant. En plus, voilà, moi, j'ai ma petite pile maintenant de 30 frères d'âme étrangers sur mon bureau. Je trouve ça assez sympa, c'est très coloré. Là, on travaille sur le prochain roman et c'est pareil. On commence avec les couvertures. Et ça fait partie des choses sympas à valider, en tout cas.
D'accord. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Annelé, sur les profils d'éditeurs qui font appel à des agents, alors vous, quand on regarde, on voit une cohérence hein, quand même dans vos choix, aussi bien sur les parties pris graphiques qui sont assez forts dans toutes les maisons que vous accompagnez, que sur la taille de ces maisons et quand même leur reconnaissance, en tout cas en France, la qualité de leur catalogue, etc. Est-ce qu'il y a comme ça un profil d'éditeur qui vient chercher les services, alors les vôtres ou d'autres agents, et d'autres maisons qui ne souhaitent pas du tout être accompagnées. Je suppose que les maisons qui appartiennent à des grands groupes ont les compétences en interne, mais est-ce qu'il y a des maisons de taille petite ou moyenne qui ne souhaitent pas du tout d'agents et qui pour autant n'ont pas un service forcément très étayé en interne? Voilà, c'est quoi le profil des éditeurs qui cherchent des agents aujourd'hui?
Je pense qu'en général, c'est plutôt des petits éditeurs, hein, on est d'accord. Tous les grands groupes ont des services de droits étrangers en interne. Et certains plus petites maisons d'édition dépendent de grands groupes. Et donc, c'est rassemblé au sein de ce service de droits étrangers. Moi, je vois en 20 ans, la différence, c'est que tout le monde, plus ou moins, s'intéresse à ces droits étrangers. C'est-à-dire qu'un éditeur qui se crée aujourd'hui, s'il est un peu bien informé, et ils le sont en général, ils se posent la question de leurs droits étrangers d'emblée. Hein. Et quand je vois les demandes qu'on a très régulières aujourd'hui, de petits éditeurs qui se créent avant même de publier leur premier livre, ils nous contactent pour savoir si éventuellement on pourrait s'occuper de leurs droits. Et cette année, sur l'année dernière, là, il y a des petites agences qui se sont montées en jeunesse récemment, parce que je trouve ça très courageux, hein, parce que là, il y en a qui se sont créées en plein Covid, sans pouvoir aller sur les foires du tout internationales. Hein. On a un petit groupe totalement informel là, d'agents jeunesse. Il y a une vraie dynamique là, je pense effectivement au niveau des agents indépendants. Ou des agences littéraires. Ouais.
Et alors, ces jeunes maisons d'édition qui se lancent et qui vous contactent, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'elles ont une crainte, par exemple, quant à la rémunération? Parce que c'est des économies assez fragiles, quand même, les petites maisons d'édition. Qu'est-ce qu'elles envisagent? Est-ce qu'elles savent que c'est une rémunération pourcentage?
Je crois que les usages, enfin, c'est assez connu, les usages hein, de la profession et des agents. Les rémunérations sont connues. Globalement, je pense que tout le monde s'aligne à peu près sur les mêmes rémunérations. Donc, si on se renseigne un peu, on sait déjà, en fait, quand on va chercher un agent, on sait déjà à peu près quel pourcentage celui-ci va demander. Après, il peut y avoir différentes façons de travailler. On peut aussi imaginer un fixe et un pourcentage. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques maisons d'édition, quand j'ai commencé avec elles, c'est ce qu'on a demandé. C'est-à-dire qu'on a demandé un fixe au départ, parce que la rémunération de l'agent, elle n'arrive pas tout de suite. Hein. Il faut 2 ans pour lancer une activité, lancer des titres à l'international. Entre le moment où on les présente la première fois et le moment où on va encaisser les sous, il se passe beaucoup de temps. Donc, et ce temps, c'est quand même du travail, quoi. Donc on peut très bien imaginer qu'un agent indépendant demande à être rémunéré au forfait avec un fixe pendant un certain temps et bascule sur un pourcentage ou une combinaison des deux, quoi. Aujourd'hui, moi, je ne le fais plus parce que j'ai un fonds qui tourne et qui me rémunère. Mais quand on débute, c'est compliqué. Hein.
Donc là, vous n'êtes plus rémunéré qu'au pourcentage, si je comprends bien. Et ce pourcentage, vous le négociez avec chacun de vos éditeurs. Et il est calculé sur, en fait, les bénéfices que vous lui faites faire avec l'étranger.
Oui, il est calculé sur ce qu'il encaisse au titre des droits étrangers et éventuellement de la coédition, hein, parce que nous, on fait de la fabrication, on fait des tirages de toutes les éditions étrangères ensemble. Donc, on a un gros travail de fabrication qu'on fait en collaboration avec les éditeurs. Et donc, l'éditeur nous rémunère sur ce qu'il encaisse au titre des droits étrangers. Ouais,
d'accord.
Tout à fait.
Et donc, alors pour vous, Magali, le profil des auteurs qui font appel à un agent maintenant, parce que finalement, c'est quand même assez récent, des auteurs qui demandent à se faire accompagner par des agents, ça va quoi, une petite dizaine d'années en France ?
J'ai une petite anecdote qui m'a fait... En fait, j'avais repéré une auteure, coucou Élise, si jamais tu regardes, j'aimais ce qu'elle écrivait, ses articles, j'aimais ce qu'elle dégageait sur Twitter, j'avais déjà lu un roman d'elle. Et je lui avais écrit, je pense, il y a peut-être 4 ans, lui disant, voilà, je me présente, je suis agent littéraire. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire quelque chose? Et si c'est le cas, ça me ferait plaisir qu'on en parle. Et elle me répond, bah merci, mais je ne suis pas Welbeck. Et ça m'avait fait sourire, parce qu'il y avait un peu cette idée de, pour avoir un agent littéraire, il faut être Welbeck. Et elle m'a rappelé 2 ans plus tard, en me disant, j'ai repensé à notre conversation, est-ce que c'est si absurde que ça ou non? Je pense que maintenant, les profils sont extrêmement divers. Je suis contactée par des jeunes auteurs, je suis contactée par des auteurs déjà publiés, des hommes, des femmes, des gens qui sont du milieu de l'édition, des gens qui n'en sont pas du tout. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas un profil particulier, si ce n'est justement peut-être ces gens qui ne sont pas du milieu de l'édition, qui ne connaissent pas, parce qu'on est quand même un milieu un peu intimidant. Savoir à quelle porte frapper, à qui s'adresser. Et puis aussi, il faut, en tant qu'auteur, quand on envoie son manuscrit et qu'on reçoit les lettres de refus, il faut gérer ça. C'est pas agréable, c'est difficile. On met beaucoup de soi dans un manuscrit, recevoir des retours refus, alors que finalement, c'est juste parce qu'on n'a pas su bien aiguiller. Je pense qu'aujourd'hui, les auteurs, justement, sont bien informés et font de plus en plus appel à des agents pour gérer un peu ça avec eux. Et vraiment, j'ai du mal à vous dire un profil particulier. Je trouve que c'est vraiment très... c'est plein de moments. Et puis, je pense que c'est vraiment une question de moment. Voilà, un auteur, pour moi, peut avoir besoin à un moment de sa carrière d'un agent, puis plus. Parfois pour un projet, parfois pas pour tous ses projets. Et puis après, il y a aussi ces auteurs qui sont pour moi des génies, hein, qui écrivent tellement bien. Alors là, j'en pense à un autre, je vais pas lui faire coucou, mais qui parle pas très bien de ses textes. Je le trouve fantastique, je lis un paragraphe de lui, je suis dans un univers. Mais alors, quand il parle de ses textes, mon Dieu, il me perd. Et ça, par exemple, quand la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui c'est bien pour lui d'avoir un agent. Et puis, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour personne, hein, de se mettre de l'avant. Voilà, j'ai écrit un truc super. Bon, quand quelqu'un vous arrive comme ça, vous vous dites un peu. Alors que si moi, je dis, il a écrit un truc super, voilà, ça met une distance et c'est plus facile de... Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de profils différents et c'est difficile de dire, ça, c'est un auteur agent. En revanche, je suis convaincue que certains auteurs n'ont pas besoin d'agent. C'est vraiment...
Ceux qui savent se vendre, donc, et ceux qui n'ont pas de phobie administrative aussi, peut-être.
Exact. Ben, vraiment, vraiment. Puis des gens qui, voilà, c'est leur, qui aiment suivre. Alors, je ne sais pas ceux qui ont vu des relevés de droits, hein, ce n'est pas quelque chose de facile à lire. Quand on en reçoit de Chine ou de je ne sais où, d'Inde ou je ne sais quoi, encore en Inde, c'est en anglais, mais des fois, de certains pays, c'est impossible à lire. Moi, j'ai reçu un relevé américain, là. On dirait qu'ils font exprès, hein. Ils choisissent la police la moins lisible, puis après ils mettent des chiffres de tous les côtés. Enfin, c'est pas facile à décrypter. Et effectivement, pour certains auteurs, ça peut paraître monstrueux. Et puis avoir un agent qui renvoie un petit papier tout simple, ça soulage.
Et alors tout à l'heure, vous avez employé le terme de maillon. Alors forcément, quand on pense au livre, on pense à la chaîne du livre qui est déjà dans laquelle les acteurs, les différents acteurs sont déjà extrêmement imbriqués les uns aux autres. Et vous, alors, en tant qu'agent, en tant qu'intermédiaire, vous avez réussi à faire entrer un maillon de plus dans la chaîne. Alors, c'était pas gagné il y a une quinzaine d'années encore, 15-20 ans, où enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre. Les éditeurs étaient assez réfractaires à l'idée de ne plus avoir ce lien exclusif avec leurs auteurs. Et comment se fait-il que petit à petit, comme ça, les agents ont réussi à se creuser, à creuser leur trou, en fait, et à se faire une place pour maintenant arriver à travailler vraiment en confiance à trois et à créer un lien entre éditeurs, auteurs et agents?
Pour moi, c'est l'expérience. C'est les choses se font. Alors, moi, je fais partie des premiers de la nouvelle génération d'agences où... il y avait déjà des agences qui avaient essuyé un peu les plâtres, mais on était, mon agence fait partie des premières à avoir été créée là, dans la nouvelle vague. C'était un petit peu raide encore au début, hein, un petit peu difficile. Certains éditeurs disaient à l'époque, non, je ne veux pas en entendre parler, ça évolue vraiment vite. Et puis de se rencontrer au final, et puis de voir que mon idée, moi, c'est vraiment de créer une équipe, auteur, agent, éditeur, et puis équipe dans la maison d'édition. Et pas du tout quelque chose en l'opposition. Et mon but, c'est vraiment de faciliter les rapports de l'auteur et de son éditeur. C'est-à-dire que certains de mes auteurs vont dire, avec mon éditeur, j'ai plus que le positif, en fait. Je ne parle avec lui que des choses sympas. Pendant les repas avec lui, je ne discute que des choses sympas. Et puis les choses pas sympas, il en discute avec moi quand on discute avec son éditeur. Et ça soulage leur relation. Et pour moi, c'est que du plus pour l'auteur. Donc je pense que même c'est que du plus pour l'éditeur aussi sur le long terme, et que ça vient au fur et à mesure aussi par la nouvelle génération d'éditeurs qui sont aussi de ma génération, qu'on grandit avec ça. Et en France, on a quand même, on est une nation qui lit énormément de littérature étrangère, et il y a des agents pour la littérature étrangère depuis toujours. Donc en fait, c'était déjà dans les mœurs. Alors quand je sens que ça grince un petit peu... Je leur rappelle qu'ils n'auraient aucun problème d'acheter un éditeur étranger, et qu'en fait c'est la même chose, et que je vais juste faciliter les rapports. Et moi, je trouve que ça évolue très vite et très bien. Et pour moi, vraiment, je sens un petit peu des fois des grincements, mais vraiment, c'est pour la forme. Est-ce que c'est pas pour la forme d'ailleurs que les gens disent un agent, d'accord? Non, je pense qu'aujourd'hui ça évolue très positivement. Et on a un maillon de renforcement. Après, il faut aussi être conscient qu'aujourd'hui, les éditeurs, ils en ont toujours plus à faire aussi. Hein. Donc, c'est difficile quand on a un catalogue avec beaucoup d'auteurs qu'on aime beaucoup, mais avec une pression à faire toujours plus, toujours mieux. Ils n'ont pas non plus, comme nous, hein, des journées à rallonge. Alors, avoir aussi un agent qui soulage certains aspects, c'est aussi bon pour eux.
Merci. Au niveau des nouveaux enjeux, puisque vous, ça fait 20 ans que, donc vous avez 25 ans même, vous disiez, que vous avez cette activité autour des droits étrangers, en tout cas. Les enjeux vraiment contemporains là, des années 2020, vous les situez où?
Dans l'édition jeunesse, ouais.
Enfin, vous pouvez ouvrir davantage.
Finalement, moi, je suis assez rassurée par la place du livre chez les éditeurs et du livre, de l'objet livre. On a traversé une période difficile hein, depuis 2 ans où ça a été compliqué finalement, mais c'est le livre est ressorti haut. Moi j'ai trouvé, et que nous, notre activité finalement, elle a fonctionné sur le renouvellement des contrats, sur le fait que des livres continuent à se vendre sur le long terme, et ça j'ai trouvé ça hyper rassurant. Donc finalement, l'enjeu il est où? C'est continuer à faire ce qu'on fait, continuer à mettre en valeur l'objet livre, en tout cas en littérature jeunesse. Alors on a effectivement des demandes plus pour du livre audio, mais ça, le livre jeunesse s'y prête pas toujours. En tout cas, la majorité des livres qu'on a ne se prêtent pas forcément au livre audio parce que les textes sont beaucoup trop courts. Mais on a quand même des demandes.
Ce sont beaucoup d'albums aussi, donc
oui,
le support.
Mais on a des demandes, alors qu'avant on n'en avait pas du tout. On a des demandes. Et le livre électronique, moi j'ai vu pendant 20 ans, on s'est posé la question du livre électronique et tout ça, elle est quasiment nulle en fait, la question du livre électronique. L'adaptation de l'album jeunesse en livre électronique, c'est juste une adaptation simple, mais je vois bien sur les relevés de droits, on les cède, hein, ces droits, mais sur les relevés de droits, c'est marginal par rapport au livre papier. Voilà, donc je trouve ça très rassurant, moi, pour le livre. Et moi, l'enjeu, ça va être plutôt celui de la lecture, en fait, en littérature jeunesse. Hein, c'est-à-dire comment continuer à faire la promotion de ce livre et de la lecture. Hein.
Donc pour vous, un éditeur comme Rue du Monde, qui garde son fond, c'est peut-être quelque chose de particulièrement précieux pour faire durer la vie des livres.
Alors moi, je suis très fière d'une chose. Le livre qu'on a le plus vendu au monde, c'est un livre de Rue du Monde qui s'appelle « Ceci est un poème qui guérit les poissons ». Et c'est un livre pour les petits, pour les 3-5 ans, qui aborde la question de la poésie. Et c'est celui qu'on a vendu le plus dans le monde. Et moi, je trouve ça merveilleux, quoi. J'espère que ça va continuer.
C'est peut-être pas le pari de départ, parce que c'est quand même un parti pris important. Bon, bah, c'est très bien. Alors vous, Magali, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des enjeux en termes d'audiovisuel qui sont peut-être plus fréquents qu'en littérature pour la jeunesse. Enfin, on peut adapter des albums, je suppose, notamment pour faire des...
Il y a des spécificités en audiovisuel qui sont vraiment particulières, et en jeunesse, tout ne s'y prête pas du tout. Il faut vraiment avoir des personnages, une histoire très forte, etc. Et nous, dans les albums qu'on a, il y en a plein qui ne s'y prêtent pas, en fait.
Ouais. Oui, pour moi, l'évolution du métier d'agent, c'est l'évolution des droits autour du livre en général. Hein, c'est voir tout ce qui peut être adapté à partir de l'univers d'un roman. Alors maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut faire un podcast, on peut faire effectivement un livre audio, une édition illustrée, collaborer avec des éditeurs en bande dessinée. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'intéresse. Et aussi, effectivement, l'adaptation à l'écran. Maintenant, il y a tellement de supports. Il y a des supports sur Internet, sur les plateformes, le cinéma. En France aussi, le cinéma d'auteur. C'est beaucoup plus simple, il y a encore quelques années, de faire des adaptations aussi internationales. Donc vraiment, les champs sont très ouverts. Et moi, c'est ça, là, aujourd'hui, qui me motive, et de jouer sur ces temporalités différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même temps d'adaptation entre un livre, entre une bande dessinée, entre un podcast, entre un film. Et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant pour les auteurs aussi de voir tout ce qui peut être créé autour d'un roman. Et c'est merveilleux pour un auteur d'avoir écrit un roman seul et puis de le voir avec un acteur au théâtre. Un comédien, enfin, c'est magique. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. En ce moment, on parle aussi beaucoup de podcasts, et ça m'intéresse. Par exemple, en tant qu'agent, je me penche beaucoup là-dessus parce que c'est intéressant, parce que ça fait vivre nos auteurs. Et puis, ça multiplie les publics et multiplie comme ça les médias. Je pense que c'est très important et que c'est pour moi l'avenir des droits aujourd'hui, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur l'édition, c'est de voir tout ce qu'on peut faire autour pour faire vivre le livre et pour amener les auteurs aussi à la rencontre des gens. Voilà, on ne touche pas les mêmes personnes avec un livre de poche, avec un livre adapté sur scène, avec un livre adapté en livre audio. Et ça, je trouve ça magique parce que le bout de la ligne, un peu comme pour toi, ce livre que tu as réussi à traduire dans énormément de pays, c'est de voir que comme à Brive, il va y avoir un auteur en signature, et puis il va y avoir un jeune de 15 ans qui fait signer son livre, puis derrière une femme plus âgée, et ça pour moi c'est la vraie victoire en fait, de voir un public vraiment différent aller à la rencontre d'un auteur, c'est vraiment la petite victoire au bout de la ligne. Donc,
Et quand un producteur ou un metteur en scène vous dit qu'il est intéressé par le texte d'un de vos auteurs, votre auteur, en général, qu'est-ce qu'il fait ? Il signe le contrat de cession de droit.
Oh, ce serait bien. Hein.
Non. Où il accompagne vraiment le projet, il travaille avec le réalisateur.
Les projets cinéma, c'est très long. Il y a souvent des coups de cœur, parce que les gens du cinéma ont des coups de cœur pour plein de choses. Alors après, pour que ça aille au bout, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il faut trouver du financement ? Comment ça va se faire ? Ça dépend, vraiment ça dépend. J'ai des auteurs
qui aiment être avoir leur patte un peu sur l'adaptation, mais moi j'aime bien quand même dire que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est quand même pas du tout la même chose d'écrire un scénario, d'accompagner le développement d'un film. Donc j'aime bien quand même qu'on se dise que... Et puis moi je prépare mes auteurs à se séparer de leur projet parce que c'est plus leur projet finalement. C'est qu'un autre artiste va s'imprégner de leur univers, mais va en faire quelque chose d'autre, ça peut être douloureux. Hein. Donc c'est important pour moi de quand même préparer les auteurs en fonction de leurs envies. Après, on a aussi beaucoup d'auteurs maintenant qui sont sollicités par le cinéma, même pour faire consultants sur certains scénarios. Donc c'est aussi vraiment super. Donc ça dépend vraiment, vraiment du projet. C'est difficile de répondre oui, non. Mais ça fait rêver en plus, c'est super, enfin, on a tous un peu envie. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que la majorité des auteurs qui nous amènent un projet ont cette petite idée quand même, si c'était adapté à l'écran, ce serait magique.
Alors moi, je vais vous poser une dernière question, puis après je vais peut-être passer le micro aux personnes qui sont dans la salle. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a quand même une qualité principale à avoir quand on est... agent, agente, c'est savoir s'adapter vraiment au client pour lequel on travaille, aussi bien que ce soit un éditeur ou un auteur, c'est quand même, ça a l'air d'être quand même du sur-mesure. Si parmi les gens qui nous écoutent, certains ou certaines souhaitaient devenir agent, quels seraient d'après vous les conseils à leur donner pour se lancer? Quelles sont les qualités absolument nécessaires pour faire ce métier?
Parler au moins l'anglais parfaitement déjà, et puis en plus d'autres langues, c'est quand même le très important, être passionné par la littérature. Hein. Je pense que c'est vraiment la clé, et être bon aussi avec les gens, parce que c'est vraiment un métier de rencontre. On rencontre les éditeurs, on crée des relations, donc c'est parce que parfois on aime les livres, mais on aime bien les lire pour soi, et Moi, je dirais que, je veux dire, quand je sens qu'un manuscrit est pour moi, c'est avec le manuscrit que j'aurai lu, et puis je vais être en train de le lire et je vais avoir envie d'en parler tout de suite. Et les gens qui sont comme ça, qui sont, voilà, je ne sais pas si vous, quand vous lisez un roman, vous appelez votre copine, votre mère, votre frère, et puis vous allez à la boulangerie, vous avez envie d'en parler parce que vous êtes complètement dedans encore. Pour moi, c'est ces gens-là.
Je l'offre, moi. Je l'achète et je l'offre en plusieurs exemples.
Mais ça, déjà, je trouve que c'est une bonne qualité pour quelqu'un qui va éventuellement être agent. Et je m'en rends compte même en discutant, par exemple, des livres qui sont défendus par ton agence. Je vais en avoir eu un, puis je vais en avoir acheté deux à deux, trois copines qui ont eu un enfant il n'y a pas longtemps. Et je me rends compte que ça fait quand même partie aussi un peu de mon métier et que ça, c'est une envie de partager ces rencontres littéraires qui sont quand même, pour moi, vu que je fais de la fiction adulte, qui sont quand même un moment intime. Quand on lit, on est avec soi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ça et je parle beaucoup quand je lis. Alors voilà, mon compagnon est témoin, le pauvre, de je lis et je suis là, oh, ça c'est vraiment bien et ça tu devrais lire. Voilà, ça c'est un agent d'avenir, je pense que ça c'est une bonne... Et puis ouais, parler plusieurs langues et avoir cette envie, même si aussi... Après, ça dépend si on rentre dans une grande agence ou si on démarre son agence. Il y a quand même aussi tout un côté administratif qu'il ne faut pas occulter, un côté juridique. Il peut y avoir aussi ces gens qui ont cette passion du juridique, de défendre des droits, qui est aussi très, très important dans notre métier et qui évolue aussi. Parce que, par exemple, pour faire des droits audiovisuels, c'est des contrats de plusieurs dizaines de pages. Donc, il faut aussi être accroché de ce côté-là et avoir cette curiosité pour tout ce qui est droit d'auteur et droit international. Qui est aussi intéressante.
Et d'après vous, alors moi aussi, à chaque fois que je raconte une histoire à un éditeur, c'est ça qui me fait tenir, quoi. Je crois qu'il y a eu des hauts et des bas dans une carrière, surtout quand on est indépendant. Mais à chaque fois que je vais sur une foire et que je raconte une histoire de crotte de nez, par exemple, ou un truc que j'ai adoré et que je le partage avec un éditeur.
Là, vous parlez des fourmis rouges.
Oui, là, je parle des fourmis rouges. Et j'aime particulièrement raconter les histoires des fourmis rouges parce que, voilà. Et à chaque fois que je découvre un livre... à nouveau une œuvre, je me dis ah ça c'est super, on va pouvoir le partager tout ça, voilà, c'est ça qui renouvelle l'intérêt du travail au quotidien. Sans ça, effectivement, ça serait, il y aurait que le juridique
et la compta
je pense qu'on serait pas là.
Après, une période en mars où on reçoit beaucoup de feuilles de comptabilité,
c'est toute l'année, les relevés de droits, moi je finis à la fin de l'année pour recommencer l'année suivante. Et la ténacité. Si on veut perdurer, il faut vraiment être tenace, quoi, parce que ça vient pas tout de suite, et que, enfin, malgré parfois ça vient facilement, mais quand même sur la durée, il faut être vraiment tenace.
En début d'activité principalement, quand vous lancez votre activité.
Toujours. Moi, chaque fois, je vais rechercher au fond de moi. Oui, non. Faut...
D'accord.
Un milieu très juste, hein. C'est pas toujours les bons livres ou les meilleurs auteurs qui fonctionnent. On a des livres super dans lesquels on s'est vraiment investi énormément, qui vont rien donner. Et comme effectivement en tant qu'agent on est payé à la commission, c'est-à-dire qu'on peut avoir travaillé énormément sur un livre et puis que ça nous rapporte rien, hein. Donc c'est vrai que parfois c'est frustrant, puis des fois il y a ces surprises, ces livres qui fonctionnent tout seuls quasiment, on les pousse d'une petite pichenette et puis ça roule et la boule de neige grossit. Donc c'est effectivement être tenace, parce que c'est pas forcément... C'est pas un milieu facile et c'est pas toujours évident, et ça se saurait. Si tous les bons livres rencontraient leur public... Bon.
Très bien. Bah, je vais voir s'il y a des questions dans la salle. Je peux pas passer le micro parce que c'est un micro filaire. Mais alors, à moins qu'il y en ait un autre qui puisse se promener. Oui ? Ah bah, super. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de vous signaler, de lever la main. On a quelques petites minutes, si vous le souhaitez, avant la deuxième rencontre. On a tout dit, on a été très clair. Bon. Eh bien, merci à toutes les deux. Ah, pardon.
Vous pouvez vous représenter pour les personnes qui sont arrivées en retard, s'il vous plaît, excusez-moi.
Donc, Magali Delobel, j'ai fondé une agence qui s'appelle So Far So Good Agency, où je représente des auteurs en direct. Alors, il y a David Diop, Anne Reva, Cara Metzalama, ils sont une petite douzaine, et des maisons d'édition, comme les éditions L'Antilope, les éditions Passiflore, qui ont des petits catalogues que je défends à l'étranger et en droit audiovisuel.
Et moi, je suis Annelée Legras. J'ai une agence qui s'appelle Annelée & Associates et nous représentons des éditeurs de jeunesse indépendants français à l'international.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Non ? Bon. Ah si.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la série 10%?
Moi, j'ai bien aimé, je trouvais ça assez drôle. Ça n'a pas grand rapport avec ma vie de tous les jours quand même. Mais oui, il y a des choses, qui m'ont fait rire. Et je me souviens, en revanche, avoir rencontré l'agent qui est à la base aussi agent littéraire, 2 ans avant la série, qui m'en avait parlé et qui m'avait dit « Ah, je travaille sur un projet qu'on va appeler 10%. » Du coup, je suis très contente pour lui et que ça marche aussi bien. Et je suis ravie que ça... Pour le coup, la série porte des choses. Maintenant, c'est une des séries françaises qui marche le plus sur Netflix à l'international. Et elle me facilite la vie à moi aujourd'hui. Parce que voilà, je peux dire, ouais, vous avez vu 10%. Donc, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le glamour de ma vie de tous les jours. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça va venir. J'y tiens. J'aurai aussi un bureau magnifique à Paris. Non, mais c'est... Moi, ce que j'aime dans la série qui fait aussi que... Là, c'est plutôt lié à mon agence à moi, c'est cette relation à l'auteur, la relation aux acteurs qu'ils ont, qui est très sympa. Moi, j'adore la voir avec mes auteurs, et ça fait partie du côté fun de mon métier et de ce que moi, j'ai envie. Alors, ça a fait hurler mon compagnon, mais j'ai envie de voir mon téléphone à portée de main et de répondre, même quand on m'appelle à 21h le vendredi. Et pour un truc, parce qu'on a une baisse de forme, parce qu'en fait, finalement, on a effacé toute une version, puis qu'on n'est plus très sûr. Mais j'adore pouvoir décrocher mon téléphone à ce moment-là, être aussi là. Voilà, désolée pour mon compagnon, mais je fais un peu ça, et ça me fait plaisir, et ça, c'est un peu dans 10%. Voilà.
Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette rencontre, et puis la suivante s'intéresse aux auteurs et à leurs relations privilégiées avec leurs agents. Voilà, merci. Toutes
les
deux.
Merci beaucoup.
Merci.